toujours une grande joie de se retrouver ensemble avec les frères et sœurs, de pouvoir partager la parole de Dieu. Je voudrais demander à Jean-Luc, tu veux nous conduire dans la prière pour commencer ce message? Eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, on se rend compte qu'il est question d'un peuple. Et c'est Dieu, par le moyen de ce peuple, s'est révélé et a parlé à l'humanité. Et ce n'est pas rien que d'être le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et même Dieu avait prévu un culte. Et quand nous lisons les cinq premiers livres de la Bible, en particulier la fin de l'Exode, hein, et puis le Lévitique et le Deutéronome, vous découvrez des multitudes de conseils et de recommandations que Dieu avait faites pour le peuple d'Israël, pour qu'ils aient un culte qui soit à l'honneur de Dieu, à la gloire de Dieu. Et il y avait même un tabernacle qui avait été dressé, et c'est Moïse, Dieu lui avait dit, hein, qu'il pouvait faire de certaines manières. Il y avait des mesures très précises, il y a une longueur, une largeur, une hauteur et un poids. Et quand vous lisez, vous voyez qu'il y a des détails précis, hein. C'est pas n'importe quoi. Et même un jour, j'ai visité un tabernacle. En Suisse, je ne me rappelle plus, je crois que c'est à Neuchâtel, il y a un tabernacle grandeur nature. Et là, vous pouvez voir, ceux qui ont fait le tabernacle l'ont fait vraiment en suivant scrupuleusement ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Alors ça, c'était voilà, comme Dieu avait donné des détails, on a pu le reproduire d'une manière suffisamment convaincante. Et on se dit, oui, ça ressemble au tabernacle qu'on s'imagine. Mais quand on lit dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Hébreux en particulier, on se rend compte que le tabernacle avait été fait sur un modèle. Et c'était un modèle céleste. Et j'ai parlé à plusieurs reprises de cela. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, mais vous la lisez sérieusement, vous découvrez qu'il y a un contexte dans lequel se passe l'Épître aux Hébreux. Et non seulement l'Épître aux Hébreux, mais c'est l'Apocalypse aussi. Quand vous lisez l'Apocalypse, eh bien, il y a plusieurs références à un tabernacle céleste. Par exemple, je vais vous lire un verset, hein, qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 6. C'est le verset 9. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Voilà, c'était sous l'autel. Et quand il est question d'une mer d'airain, non, d'une mer de cristal, c'est un rapport avec la mer d'airain qu'il y avait dans le tabernacle. Mer d'airain, pauvre petite mer d'airain, c'était pas grand-chose. Mais quand il est question du ciel, c'est une mer de cristal, que rien ne peut rendre, aucun objet matériel ne peut rendre les nuances, les couleurs, la puissance, la grandeur, l'étendue de cette mer qui est devant le trône de Dieu. Et puis même il est dit, hein, qu'il a pris un encensoir d'or sur l'autel et qu'il a jeté sur la terre. Et l'autel, c'est l'autel des parfums, qui était devant le trône de Dieu. Et là, dans l'Apocalypse, nous sommes sur le trône du jugement. Et tout se passe sous le regard de Dieu. Il y a les trompettes, il y a les sceaux, et tout se passe dans ce tabernacle céleste. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le tabernacle dont il est question dans l'Épître aux Hébreux. C'est ce tabernacle qui est si grand, si magnifique, si immense. Quand Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, il a offert, son sang a coulé sur la croix et il est entré dans le ciel même. Nous lisons cela dans un passage de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, le verset 11. Il est dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et puis un autre verset, le verset 23, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. C'est car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Si vous vous posez la question, comment est le ciel, c'est un tabernacle. C'est le tabernacle même. C'est avec l'immensité, nous ne pouvons pas mesurer, savoir, est-ce qu'il y a des mesures, est-ce que c'est spirituel, arrêtons les discussions, mais il est question ici que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le ciel même. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Il est entré dans le ciel même, dans la présence même du Père, et il est entré avec son propre sang. Vous voyez la grandeur de la chose. Vous voyez combien nous avons souvent une petite pensée qui est très étroite, qui est bien petite, et qui laisse entendre que les choses matérielles comptent tellement pour nous, mais il y a des choses si grandes, si parfaites, si immenses, que les descriptions humaines sont incapables de définir. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez cette accumulation d'adjectifs et de mots qui sont là pour dire que c'était ceci, c'était ça. Et même quand il est question de Dieu, il est dit, et c'est de Jésus-Christ, il sortait de sa bouche un glaive à deux tranchants, etc. Il y avait, ses pieds étaient comme un airain embrasé. Ce sont des images humaines pour des choses célestes. Des choses qui sont tellement au-dessus de notre portée, qui sont si grandes et qui nous dépassent tellement que l'être humain est obligé un jour de fléchir le genou devant Dieu et de dire « Qu'est-ce que je suis, moi, petite créature, pour me présenter devant le trône de Dieu ?» C'est quelle audace d'aller au trône de Dieu et lui dire « Voilà, j'ai des problèmes. » On se dit « Mais comment, devant une pareille grandeur, l'homme s'approche de Dieu et dire « Je suis malade, j'ai des problèmes financiers. » Je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas à cela. Il y a une seule raison qui nous permet de le faire. C'est le sang de Christ. C'est l'œuvre de Christ parfaite à la croix. Il est entré dans le ciel même avec son propre sang. Il nous a ouvert une voie royale, une entrée nouvelle. C'est quelque chose d'immense. Le souverain sacrificateur est entré une fois par an dans le lieu très saint avec du sang. Il s'entourait de beaucoup de fumée aussi, hein. Personne ne pouvait résister à la présence de Dieu. Et nous, maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu et lui demander, prier, intercéder, obtenir de Dieu des choses immenses, merveilleuses, parce que nous avons obtenu un salut éternel, une rédemption qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu avec assurance et de lui dire « Mon Dieu, j'ai des problèmes, je ne comprends pas tout. Regarde ma petitesse, regarde ma faiblesse, je compte sur toi. » Et combien de chrétiens se sont approchés de ce trône? Parce que vous vous rappelez le tabernacle, il y a le trône de Dieu, vous avez le lieu très saint, et vous avez dans le lieu très saint, eh bien, l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, les chérubins, vous vous rappelez hein, de cela, eh bien c'est le trône de Dieu. C'est le trône de la miséricorde de Dieu. C'est le trône de la grâce. Mais dans l'Apocalypse, c'est le trône du jugement. Parce que les gens ne sont pas passés par le sang de Christ. Le trône de la grâce n'existe que parce que Jésus-Christ est entré dans le ciel, il est entré dans la présence du Père et avec son sang. Et parce qu'il a présenté son sang, eh bien, il a fait l'aspersion du sang, hein, qui est plus précieuse que le sang d'Abel, qui, quoique le sang d'Abel parlait beaucoup, mais le sang de Christ qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, eh bien, c'était l'occasion de nous ouvrir la présence de Dieu, de ce que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et c'est le passage que je pensais aujourd'hui. C'est au chapitre 4, versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est le ciel même. Le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le ciel même, dans la présence du Père. Et il s'est présenté avec le sang. Et nous, eh bien, notre réponse, c'est la foi. C'est la confiance. Il y avait un souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance qui apportait le sang. Et cela suffisait au peuple. Et ils étaient rassurés. Et ils se disaient une année de plus. Et chaque année, cela a été renouvelé. Et c'était une année de plus. Mais pour nous, il est entré dans le ciel une fois pour toutes. Et c'est définitif, c'est complet, c'est accompli. C'est au-delà de toute pensée humaine. Nous nous approchons du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. C'est beaucoup de chrétiens ne se sentent pas dignes de se présenter devant ce trône. Mais je vais vous dire, si vous vous sentiez digne du trône de la grâce, ce ne serait plus le trône de la grâce. C'est parce que c'est le trône de la grâce que vous pouvez vous approcher du trône de Dieu. Vous êtes digne à cause du sang de Christ, pas à cause de vos mérites, pas parce que vous êtes de meilleurs chrétiens, c'est pas parce que vous priez 3 heures par jour que vous pouvez vous approcher du trône de la grâce, c'est pas parce que vous lisez la Bible une fois par an que vous pouvez vous approcher du trône de la grâce, c'est parce que vous n'êtes pas parce que vous n'êtes pas tombé dans ce péché ou dans celui-là que vous pouvez vous approcher du trône de la grâce. Le trône de la grâce, on ne s'en approche que d'une seule manière. Par le sang de Christ, en l'acceptant dans sa totalité, complètement. Le sang de Christ me purifie de chaque péché. Il n'y a pas un péché qui ne soit pas effacé par le sang de Christ. Si vous attendez d'être digne pour vous approcher du trône de la grâce, vous ne vous approcherez jamais du trône de la grâce. Je peux vous recommander, allez avec audace au trône de la grâce, mais avec respect. C'est Dieu qui est assis au trône de la grâce. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit copain. On n'est pas. J'ai entendu des gens parler de Dieu, j'ai même entendu une prière. Et Seigneur, tu nous feras! Et le pasteur tapait du poing sur le pupitre et ça résonnait dans toute la salle. Et tu nous donneras! Et tu feras! Et nous voulons! Ils prennent, j'ai entendu même quelqu'un, il dit, on prend pouvoir sur Dieu. Mais c'est le manque de respect. De Dieu. Certaines personnes n'ont pas peur de blasphémer, mais même si nous sommes les enfants de Dieu, même si nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, c'est toujours avec respect, parce que c'est le grand Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Même dans cet épître aux Hébreux, il est dit, Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Qui peut tenir devant Dieu? Qui peut tenir devant la sainteté et la justice de Dieu? Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce que parce que le prix de notre rachat a été payé une fois pour toutes par le sang de Christ. Parce que si c'est sans le sang de Christ, eh bien nous nous approchons d'un feu dévorant qui dévorera les rebelles, devant qui tout genou fléchira, dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Personne ne pourra résister au nom de Dieu. Il suffit qu'il soit prononcé et l'homme est obligé de tomber sur sa face. Parce que c'est Dieu. Et l'homme reste qu'un homme, un être humain, un petit grain de poussière de rien du tout dans cet univers. Mais par le sang de Christ, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce et de pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Je ne sais plus. C'est parfois des chrétiens se sont approchés du trône de la grâce et ont dit, Seigneur, ma vie est un échec complet. J'ai tout raté. Je te demande avec ce qui reste de faire quelque chose. Et ces personnes-là se sont relevées avec force, avec puissance. Et Dieu a pu changer le cours de leur vie, a pu changer des choses. Parfois, il n'a pas changé. Et ces gens sont obligés de rester dans ce qu'ils ont fait. Mais Dieu relève quand même le pécheur qui se repent et qui se tourne vers Dieu. Il y a des moments difficiles, il y a des moments qui nous arrachent les larmes des yeux, mais ces moments-là, eh bien, trouvent un cœur qui nous aime et qui a compassion de nous et qui compatit. C'est le trône de la grâce. C'est le trône de la miséricorde de Dieu. C'est le trône de la miséricorde de Dieu. Vous savez, il y avait les tables de la loi. La loi est accomplie en Christ. C'est, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas tout réussi. Votre vie chrétienne n'est pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Il y a le trône de la grâce. Dieu admet que nous puissions tomber. Et il a pourvu un médiateur, c'est qui plaide pour nous. Il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu, du Père. Et il est à côté de lui. Et il plaide notre cause devant le Père. Mais notre responsabilité à nous, c'est de reconnaître nos péchés et de dire: je suis tombé. Je me suis écarté du bon chemin. J'ai fait le mauvais choix. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et je te demande pardon. Ce n'est pas, nous n'avons pas à attendre des années pour demander pardon à Dieu. Il suffit simplement d'un regard à la croix, d'un regard à celui qui nous a rachetés et de dire: je me suis trompé. J'ai fait une erreur. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je me rappelle de quelqu'un qui priait et dit: oh Seigneur, je te demande pardon pour ma folie. Et je retrouvais cette expression dans les psaumes. Je me suis dit: tiens, nos péchés sont des folies, c'est vrai. On croit qu'on était parfaitement sage et que je prendrai ce chemin-là et personne ne m'en empêchera. Ben oui, personne ne nous en empêchait, malheureusement. Et nous l'avons pris et c'était une folie. Mais après les folies, il faut les assumer. Et parfois, on porte lourdement nos péchés, ce qu'on appelle les péchés de jeunesse. On les porte lourdement. Mais cela n'empêche pas que le trône de la grâce est toujours ouvert et que nous pouvons toujours trouver Dieu comme notre Père. Je me rappelle d'un homme, il avait été alcoolique. Alors il rendait son témoignage, c'est une réunion de gens qui avaient été alcooliques, hein. Alors il rendait son témoignage, il disait: voilà, quand j'étais jeune, je buvais, c'était dans le nord, 26 bergers. Dans le sud, ça aurait été des pastis, hein. C'est la même chose. Mais c'est aussi nocif. Et il a bu 26 bergers. Et puis un jour, j'étais totalement ivre. Il y avait quelqu'un qui m'embêtait. Je me suis penché par-dessus le comptoir. Je savais que le patron, il mettait son revolver. J'ai pris le revolver et j'ai tiré, j'ai tué. Voilà. Alors à l'époque, on guillotinait. Mais lui n'a pas été guillotiné pour une raison. Il était ivre et bon, on n'a pas tenu pour complètement responsable. Et alors, il a fait 30 ans de prison, un truc comme ça. Il est ressorti, voilà. Mais en prison, il s'est converti. Mais en prison, sa femme l'a abandonné. Ses enfants, il ne savait plus ce qu'ils étaient devenus. Mais je voyais sur ce visage la joie de Christ. Il avait été réconcilié, lavé de ses péchés. Mais son passé, il n'a pas pu le changer. Le passé est resté le passé. Et sur son visage, il avait encore les cicatrices parce qu'il s'était battu avec des bouteilles, des tessons de bouteilles. Et l'autre aussi, il était marqué. Mais ça n'a pas enlevé les cicatrices. Mais néanmoins, il était racheté. Il était lavé de ses péchés. Il pouvait s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Parfois, notre passé peut être réparé. Et Dieu le fait. Mais d'autres fois, le passé n'est pas réparé. Alors, on en subit les conséquences. Mais on subit les conséquences de notre passé avec la joie de Christ, qui nous donne la force de vivre ce passé et de faire en sorte qu'on ne le recommence pas et que l'on continue dans le bon chemin. Il a dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, avec audace. Comme je vous ai dit, avec respect. Mais avec audace. C'est l'audace de la foi. C'est quelqu'un qui sait quelle position il a. Si vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes de la famille de Dieu, vous pouvez appeler Dieu votre Père, alors là, vous avez de l'audace. Mais parfois, on sait ces choses-là théoriquement. Et on en discute, on peut en parler, on peut même faire des professions de foi sur ces questions-là, mais au fond de nous-mêmes, eh bien, nous ne sommes pas. Quoi que nous le soyons, nous ne nous présentons pas au trône de la grâce comme des enfants de Dieu et nous ne nous approchons pas avec assurance. Ou bien nous n'avons pas d'assurance parce qu'on dit: Seigneur, dans le passé, je me suis mal comporté, j'ai fait ceci ou cela, alors on manque d'assurance. combien de fois des chrétiens ont eu un passé qui est une action qui est ressurgie et ils sont voilà, c'était à chaque fois qu'ils prient, c'est ils tombent là-dedans. Je me rappelle pendant des années, j'ai prié et il y a quelque chose qui revenait à ma pensée. Et à chaque fois que je priais et que je voulais prier sérieusement, il y avait une accusation. Et tu as été ceci, mais tu as fait ça. Et ça revenait à chaque fois. Et un jour, j'ai pris une décision. Les personnes, je ne les ai pas vues depuis bien longtemps. Alors, j'ai écrit des lettres où j'ai demandé pardon. Et j'ai avoué mes transgressions. J'ai dit ce que j'avais fait. Et j'ai envoyé les lettres. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire. Ça a été réglé. Et je vais vous dire, plus jamais, quand j'ai fermé les yeux, il y a eu une accusation. Ça a été terminé, réglé. Parce que il y a des moments où on doit demander pardon à Dieu, mais il y a des moments où on doit demander pardon aux hommes. Et on doit mettre en règle certaines choses. Et si vous ne le faites pas, eh bien, cette petite accusation arrive. Oh, mais c'est une voix diabolique, hein, qui vous dit, oui, mais attends, tu n'es pas un aussi bon chrétien que tu le prétends. Il y a eu ceci, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça nous enlève notre assurance. On ne s'approche plus avec audace du trône de la grâce, avec confiance. On ne s'approche plus avec la plénitude de la foi, parce qu'il y a quelque chose qui nous diminue et qui nous empêche de saisir une complète bénédiction, un complet exaucement à nos prières. Alors, ces choses-là, eh bien, elles reviennent. Et si vous avez quelque chose, quand vous priez, que vous fermez les yeux, qui vous revient, alors pensez-y sérieusement. Et s'il faut le mettre en règle, alors ayez du courage, faites-le. Parce que ça vaut la peine. Satan essaiera toujours de nous convaincre que certaines choses, bon, ça va, tu mets-le de côté, ça n'a aucune importance. Mais il va vous accuser quand même, hein? Mais il vous diminuera toujours. Mais il vous dira, oh, mais c'est pas grave, laisse-le de côté. Ne t'engage pas, ne fais pas ce qui est nécessaire. Parce que ce qu'il redoute plus que tout, c'est ceux qui s'approchent avec assurance du trône de la grâce, qui s'approchent avec audace, qui savent quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils doivent dire au trône de la grâce. Vous savez, nous avons devant nous un monde perdu. Nous avons des millions de personnes qui meurent sans Christ. Si quand vous priez, vous demandez le salut des âmes, il y a une petite voix qui dit, ah oui, mais tu as fait ceci dans le passé. Vous n'aurez pas la force de prier jusqu'au bout. Tandis que si vous mettez en règle, alors vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce et de dire, Seigneur, je te demande le salut des âmes. Je te demande que ce frère ou cette sœur qui est tombée se relève, revienne à toi. Je te demande que ceci et cela, parce que il n'y a plus rien qui met obstacle entre Dieu et nous dans nos prières. C'est cette assurance du trône de la grâce. S'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ce n'est pas ceux qui s'approchent médiocrement du trône de la grâce. Ce ne sont pas ceux qui s'approchent de temps en temps. Ceux qui ne sont pas vraiment convaincus de. Bon, vous savez, on est à une époque difficile, les gens sont rebelles. Alors, combien de fois j'ai entendu des paroles prononcées comme cela, hein? C'est, oh ben vous savez, c'est un peuple qui est comme ça. Hein. Oh oui, mais il y a de l'occultisme dans cette région. Mais il y a ceci, il y a ça. Et quand on a de pareilles pensées, nos prières sont arrêtées. Parce que nous avons, ben, il y a de l'occultisme, qu'est-ce que vous voulez? Si on est dans une région où il n'y a pas d'occultisme, ben c'est plus facile. Alors on a plus d'assurance pour prier, pour intercéder pour les âmes perdues. Quand il n'y a pas d'occultisme, que quand il y a de l'occultisme. Mais je peux vous dire, je me rappelle la première église dans laquelle j'étais, c'était aux Antilles, à la Guadeloupe. C'était une église de 300 personnes à peu près le dimanche. Mais plus tard, j'ai appris que l'église avait fait deux églises de 500 personnes. Mais vous savez ce que c'est que les Antilles? Nos frères peuvent le dire, hein. Mais il y a le culte du vaudou. Et à la Guadeloupe, il est très fort. Il y a des gens qui pratiquent l'occultisme, vraiment. Mais les chrétiens ont l'audace de demander les âmes. Et ils attendent les âmes. Et ils font tout pour que les âmes soient sauvées. Non seulement il y a deux églises de 500, maintenant ça fait plus de 20 ans que j'en ai entendu parler, hein, peut-être même davantage. Mais ces églises continuent. Elles continuent à évangéliser, elles continuent à grandir. Et les églises les plus importantes, eh bien, sont aux Antilles. Et là où il y a justement l'occultisme très fort qui bat son plein. On a toujours des prétextes pour ne pas avoir d'assurance dans nos prières. Dieu a prononcé des paroles, il a dit certaines choses. Et nous, eh bien, chrétiens, lavés par le sang de Christ, de la famille de Dieu, nous devons savoir ce que Dieu a dit. Et alors, demander en fonction de ce que Dieu a demandé. Si Dieu nous a demandé de prier pour un monde perdu, et que, hein, c'est Paul qui le dit à Timothée, hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Intercéder, on intercède pour tous les hommes. Alors, si ça nous a été demandé, il faut le faire. Et il faut le faire avec assurance, avec audace, parce que Dieu veut nous exaucer. Mais c'est bon dans les moments difficiles de notre vie quotidienne, c'est dans les grandes épreuves, c'est vrai dans n'importe quelle situation. Vous êtes dans une situation nouvelle. Et vous dites, Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais je te demande la force, je te demande l'intelligence. Ouvre mon cœur, que je puisse faire ce qui va t'honorer et te glorifier. Je me rappelle d'une jeune fille, on lui avait dit, tu sais te servir de cette machine-là? Elle a regardé, oui, je crois, oui. Et elle dit, oui, mais attends, cette machine, il faut un diplôme pour l'utiliser. Oui, mais elle a dit, je crois que je peux le faire. Et elle a prié. Et elle s'est mise devant la machine. Après, elle m'a dit, tu sais, c'est une machine à écrire, hein? C'est un telex. Bon, maintenant, c'est dépassé tout ça. Mais il fallait pas se tromper parce que ça, c'était envoyé, hein? Ça partait sur les ondes. Et c'était, voilà. Cette personne-là, elle dit, je suis chrétienne. Je vois à peu près comment ça doit marcher. Je fais confiance à Dieu et je m'avance. Et il y a des personnes qui font confiance et qui disent, Seigneur, j'avance, je crois en toi. Je prends cette décision par la foi. Je compte sur toi. Et c'est si vous comptez sur vos forces, si vous dites, voilà, ben maintenant je vais prier pour telle situation, ou pour des malades, ou pour que cette personne-là se convertisse, ou pour que les réunions, ben, il faut de la persévérance. Et là, vous aurez une petite voix qui dit, oui, ça va aller 2 jours, hein. Après, tu vas oublier. Et c'est vrai. Mais on dit, Seigneur, je m'engage à le faire par la foi, en comptant sur toi. Donne-moi la force de le faire et d'aller jusqu'au bout. Si on ne compte pas sur Dieu, si on est toujours en timoré, en train de se dire, oui, mais je risque de ne pas avoir la force, oui, je vais faire 2 jours, puis après, ça sera fini, eh bien, vous ne ferez jamais rien. Il y a des chrétiens qui se sont engagés et qui un jour ont dit, cette situation est impossible, elle ne peut pas continuer comme ça. Alors, on va prier. Ils se sont retrouvés à deux ou trois et ils se sont encouragés à prier et à persévérer. Bon, il y en a un, il a dit, oh, tu sais, je perds courage, hein. Cette semaine, je n'ai pas eu le cœur à le faire. Continue, on est trois, on s'encourage, on se fortifie les uns les autres. Et ils ont prié jusqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils ont demandé. Et c'est la plupart des grandes œuvres chrétiennes ont derrière des chrétiens qui se sont approchés avec assurance du trône de la grâce, qui ont osé demander à Dieu des choses que, à vue humaine, c'était impossible. On dit, comment vous avez demandé à Dieu que Dieu pourvoie pour cette situation-là, mais vous n'avez pas la première chose. Je me rappelle un jour, je termine là, hein. J'étais avec une personne et puis il y avait une maison à vendre. Alors la personne m'a dit, tiens, regarde, il y a une maison à vendre, pourquoi tu n'achètes pas? Alors je lui ai dit, mais j'ai pas le premier centime pour acheter cette maison. Alors la personne a rigolé. Je fais, moi, j'ai jamais été motivé par l'argent et par les maisons. Donc, bon, ben, elle était motivée, moi non. Et alors, j'ai fait un pas. Et par terre, il y avait une pièce de 10 centimes. J'ai ramassé, je lui ai dit, regarde, les 10 premiers centimes de la maison. C'est quand j'ai parlé de cela, Sarah, elle en a pleuré. Parce que comment? Mais si j'avais besoin d'une maison, Dieu ne peut-il pas me la donner? Est-ce qu'il est plus difficile de mettre 10 centimes à un mètre de un pas, j'ai fait. J'ai prononcé une parole, j'ai fait un pas, et les 10 centimes, je n'ai pas le premier centime, et Dieu m'a donné les 10 premiers. Est-ce que c'est plus difficile de donner, je ne sais pas, je ne veux même pas dire un chiffre, pour une maison ou pour mettre 10 centimes? Est-ce qu'à Dieu, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je vous laisse avec ce dilemme. Hein. Je m'y passais pas trop de temps. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. C'est aussi difficile de mettre 10 centimes que de mettre 1 million. C'est 2 centimes. Hein. C'est comme ça. Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il y a des choses dont on a besoin. Il veut nous les donner. Mais il y a des choses dont on n'a pas besoin. Ce sont des choses superflues, des choses qui n'ont aucun sens. Alors, bon, ben, ne les demandez pas. Et si parfois vous ne les obtenez pas parce que vous avez demandé, eh bien, vous vous rendez compte, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour vous. Mais je vous encourage à prendre les choses au sérieux. La prière, c'est une affaire sérieuse. Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, qui a fait des choses si grandes et si parfaites. Il est entré dans le ciel avec son sang. Il nous a laissé présenter devant le Père. Il nous a acquis une rédemption éternelle. Il nous a acquis un accès privilégié au trône de la grâce. On peut s'approcher du trône de la grâce n'importe quand. Vous savez où était situé l'autel des parfums, qui est c'est la prière. Hein. Il était devant même le trône de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un pas entre celui qui exauce la prière et l'endroit où était présentée la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre lui et nous. Et nous pouvons nous approcher, demander, ayez le courage de demander et d'attendre jusqu'au bout, même si les choses se font attendre. Eh bien, allez jusqu'au bout. Parce qu'il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce.